Parlons d'abord de la différence entre le Qigong et l'entraînement sportif. Beaucoup d'entre nous confondent les exercices ordinaires de Qigong avec l'entraînement sportif. En fait, les différences entre les deux sont énormes. Les différences sont fondamentales. Vous savez, l'entraînement sportif requiert habituellement des mouvements vigoureux, ou du moins tu dois pratiquer certaines formes de mouvements. Tandis que dans le Qigong, nous bougeons très peu. Même s'il y a des mouvements, ils sont très doux, lents et arrondis. Ils ne nécessitent aucune force. Et même, il n'y a pas de mouvement lorsqu'on s'assied en méditation. Ainsi, même superficiellement, il y a une grande différence entre les deux. Mais dans leur essence, la différence est encore plus grande. L'entraînement sportif a pour but d'accroître l'intensité des exercices pour stimuler la circulation du sang et accélérer le métabolisme, de sorte que les muscles du corps physique soient renforcés. Le Xiulian du Qigong, cependant, est juste le contraire. Le Qigong n'exige pas cette sorte de renforcement du corps superficiel, du corps physique. Ce qu'il veut vraiment transformer est l'intérieur du corps. Exprimé en d'autres termes, il part de l'origine même de la vie humaine et transforme une personne de l'intérieur vers l'extérieur. Puisque la transformation va de l'intérieur vers l'extérieur, certaines personnes très sensibles peuvent le sentir. Certains n'y sont pas sensibles et ne sentent rien. Par ailleurs, le Qigong est quelque chose de supranormal. Il nécessite que la personne veille à son « de » avant d'être transformée. Une fois que la transformation a eu lieu, les changements sont énormes. L'entraînement sportif, cependant, ne peut pas accomplir cela. Il ne requiert pas non plus d'insister sur le « de », etc. Bien sûr, demander d'être une bonne personne et de faire attention à la moralité, c'est un principe pour les gens ordinaires. Ils n'ont pas d'exigences renforcées comme nous en avons, nous, les pratiquants. Par conséquent, il s'agit d'une capacité technique de personne ordinaire, tandis que le Qigong, par lequel nous cultivons et pratiquons, est quelque chose au-delà du niveau des gens ordinaires. Donc les résultats et les buts qu'on atteint, finalement, diffèrent encore plus. Par exemple, en pratiquant le Qigong à un niveau superficiel, nous pouvons obtenir santé et longévité, mais l'entraînement sportif ne le peut pas. De plus, avec l'entraînement sportif, même lorsque tu es un athlète ou une personne de forte constitution physique, tu ne peux pas être exempt de maladie. Ainsi, quand un sportif est destiné à tomber malade, il tombera encore malade. C'est seulement dans des circonstances normales, en cas de grippe, de maux de tête et de rhume, que son immunité est forte. Mais s'il est censé avoir une maladie majeure, il l'aura malgré tout, c'est certain. Il n'y a aucun moyen pour les sportifs d'échapper à la maladie. À un niveau fondamental, la cultivation du Qigong diffère aussi grandement. Par exemple, comme je l'ai dit auparavant, quel but, quels objectifs l'entraînement sportif doit-il atteindre pour renforcer le corps? Son but est le suivant: accroître le nombre des exercices et augmenter la circulation du sang pour renforcer ainsi la capacité du métabolisme. Mais là où il y a un avantage, il y a un désavantage. Les choses doivent être regardées dialectiquement. Si tu continues à faire cela, alors il y aura inévitablement un aspect négatif. Ici, nous donnons une conférence enseignant le fa aux pratiquants. Nous ne parlons pas aux gens ordinaires. C'est dans cet environnement que nous parlons. Pourquoi ? Réfléchissez. Quand une personne augmente la quantité des exercices et accélère la circulation du sang, cela lui permet d'entretenir constamment le métabolisme. Cela veut dire qu'elle veut augmenter sa capacité métabolique, qu'elle veut constamment pourvoir son corps de nouvelles cellules et le maintenir toujours dans une forme ascendante. Ces cellules sont toujours comme le soleil à 8 heures ou 9 heures, toujours en train de monter. Et dès qu'une cellule commence à décliner, elle est éliminée. De cette manière, la condition physique est renforcée. Spécialement durant une période de compétition, le corps d'un athlète doit toujours être au sommet de sa forme. Par exemple, prenons le cycle d'une cellule comme une journée de 12 heures. Le matin, à 6 heures, ou à 7 heures, ou à 8 heures, une cellule est toujours en voie ascendante, n'est-ce pas? À 8 heures ou à 9 heures, elle est très forte. Mais passé midi, la cellule ne peut plus continuer à monter.
Elle ne peut que glisser vers le bas, n'est-ce pas? Elle maintient un certain niveau et glisse vers le bas. Elle ne peut plus monter.
Alors, elle n'est plus adaptée à la condition d'un athlète de compétition. Ainsi, il doit augmenter la quantité des exercices, stimuler la circulation du sang, chasser ses vieilles cellules et produire de nouvelles cellules pour les remplacer. Il est toujours dans cet état. Grâce à ces moyens, il rend son corps plus fort, mais il ne peut pas être dépourvu de maladies, parce que cela dépend des liens de causalité et d'affinité. Mais comme nous l'avons dit, quoi qu'il soit devenu plus fort, lui aussi, quand il y a un avantage, il y a aussi un désavantage. Mais quels sont les désavantages? Réfléchissez. Les cellules du corps humain ne peuvent continuer à se diviser indéfiniment, et tu ne peux pas produire autant de cellules que tu veux. Les divisions cellulaires sont comptées. Ainsi, s'il y a une limite à la division des cellules dans le corps humain, et qu'on accroît la fréquence de la division cellulaire, réfléchissez chacun. Cela n'a-t-il pas pour effet de raccourcir la vie? Théoriquement parlant, il en sera ainsi, car au cours de la vie, par exemple, si mes cellules se divisent 100 fois, je peux vivre 100 ans. C'est simplement un exemple. En fait, elles peuvent se diviser plus d'un million de fois. L'homme vit, disons, 100 ans. Mais si toutes ces cellules sont expulsées seulement lorsqu'elles arrivent à mi-parcours, si elles sont évacuées à mi-vie, alors il ne vivra que 50 ans. C'est le principe, n'est-ce pas? Cela veut dire que là où il y a un avantage, il y a un désavantage. C'est pourquoi, superficiellement, les athlètes paraissent plus vieux. Les adolescents ont l'air d'avoir dans la vingtaine, et ceux qui sont dans la vingtaine d'en avoir plus de 30. Souvent, ils ont l'air très vieux. Bien sûr, ne te fais pas de soucis, car ils ne feront pas du sport toute leur vie. La compétition des sports modernes est très exigeante. Alors, ils sont éliminés au moment où ils ont 28, 29, 30 ans. Une fois écartés des sports de compétition, ils deviennent comme des personnes ordinaires et vivent une vie ordinaire de sorte qu'ils n'ont pas l'air d'avoir perdu beaucoup de leur vitalité. Mais théoriquement, il en est en effet ainsi. Comment pourrait-il y avoir un nombre infini de cellules? Comment une cellule pourrait-elle continuer à se diviser indéfiniment? Cela ne peut pas être. À cela, il y a une limite. Alors la cultivation du Qigong, le Xiulian, sont juste le contraire. Elles n'ont pas pour but de stimuler la circulation du sang ou d'accroître la capacité métabolique. C'est juste l'opposé. Elles n'accélèrent pas la circulation du sang. Au contraire, elles ralentissent les battements du cœur. En même temps, cela peut aussi amener le métabolisme à fonctionner très lentement. Par exemple, si les cellules d'une personne se divisent une fois en un jour, moi, je verrai mes cellules se diviser une fois tous les 2 jours, ou une fois tous les 3 jours, ou une fois par semaine. Parce que lorsqu'une personne est assise en méditation, lorsqu'elle est tranquille, elle peut contrôler son corps charnel, de cette façon. Ainsi, la vie de cette personne sera en fait allongée d'une longue durée sans qu'elle le réalise. Sa vie sera prolongée de beaucoup. On parle en théorie. Alors il y a aussi, sa vie est fixée à ce point. Comment peut-elle être prolongée? J'ai aussi discuté de la situation suivante. Si la méthode que pratique cette personne ne comporte pas la cultivation conjointe de l'esprit et du corps, au cours de la cultivation, elle pourra quand même prolonger sa vie. Prolonger sa vie, certes, mais si elle n'est pas sortie des trois mondes, elle est encore sujette aux limitations des trois mondes. C'est pourquoi sa vie ne peut pas être prolongée à volonté. Mais les trois mondes sont une question de franchissement des niveaux. Si le niveau de cette personne a franchi les trois mondes, personne ne s'opposera plus à la prolongation de sa vie. Donc, elle peut prolonger sa vie sans limite, la prolonger aussi longtemps qu'elle veut. Cela veut dire que dans les systèmes où l'on ne cultive pas le corps, lorsqu'on est parvenu à un très haut niveau, on peut aussi prolonger sa vie. Cela démontre en théorie que la cultivation du Qigong, que la cultivation dans une telle situation peut en effet différer le vieillissement et prolonger la vie.
Mais dans les systèmes qui ne cultivent pas le corps, tu verras que les personnes qui ont vécu pendant longtemps semblent très très vieilles, si vieilles que c'en est effrayant. C'est ce qui arrivera. Par contre, dans les systèmes qui cultivent le corps, on a toujours l'air jeune. Je viens de parler maintenant des différences entre entraînement sportif et cultivation par le Qigong. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Maintenant, parlons des activités de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous allons apprendre le cinquième exercice qui requiert de s'asseoir en méditation, de pratiquer la cultivation tranquille. Alors, que demandons-nous aux gens pour entrer dans la tranquillité? Dans un petit moment, j'aborderai toutes ces questions. Beaucoup de personnes m'ont écrit des notes. Certains sont même venus me trouver et m'ont posé ce genre de questions. « Maître, comment se fait-il que lorsque je m'assieds en méditation, je ne peux pas être tranquille ?» Il y a aussi d'autres pratiquants d'autres systèmes qui me demandent et qui le demandent aussi à d'autres maîtres de Qigong. Pourquoi ne puis-je pas être tranquille? Enseignez-moi une méthode pour parvenir à la tranquillité. Autrement, je ne peux pas pratiquer le Gong. Donc, certains maîtres de Qigong enseignent aux gens. Tu dois compter, tu dois visualiser, tu dois te concentrer sur le Dan Tian, tourner ton regard vers l'intérieur. En tout cas, il y a tout ce genre de choses. L'école de Bouddha aussi enseigne à psalmodier le nom de Bouddha. Finalement, cette personne s'en retourne, elle essaye et sent que c'est un petit peu mieux. Mais elle ne peut toujours pas devenir tranquille. On peut seulement dire qu'il y a un léger mieux parce qu'il s'agit d'une méthode de cultivation. Bien sûr, elle a un certain effet, mais cette personne n'est toujours pas capable de devenir tranquille. Alors parlons de cette question. Pourquoi ne peut-on pas devenir tranquille? En fait, je vous le dis, la véritable raison pour laquelle les gens ne peuvent pas être tranquilles, n'est pas quelque chose que tu puisses résoudre en recourant à telle ou telle méthode. Tout d'abord, parlons de l'activité de la pensée humaine, et ensuite, je t'expliquerai ces choses. L'activité de la pensée dont nous parlons, c'est la pensée produite par le cerveau humain. C'est ses activités. Nous l'appelons aussi l'intention. Les intentions humaines ou les activités de la pensée humaine. Selon certains maîtres de Qigong et certains chercheurs actuels sur le corps humain, aussi bien que d'autres, à mon avis, c'est s'écarter du bon chemin. Ils font des recherches sur l'activité de l'esprit humain. Ils disent « Pourquoi les maîtres de Qigong ou les gens avec des pouvoirs extrasensoriels ont-ils une pensée qui peut accomplir autant de choses ? Aussitôt qu'ils veulent faire quelque chose, c'est déjà fait. Alors ils focalisent leurs recherches sur la pensée humaine, sur l'esprit humain. Bien sûr, ils savent que la pensée humaine est… Lorsqu'on pense à quelque chose, on émane une sorte de matière, mais ils ne savent pas pourtant spécifiquement de quelle sorte de matière il s'agit. Bien sûr, nous voyons ces choses très clairement. Ainsi, on fait des recherches sur les activités de l'esprit humain. En fait, là, je peux vous le dire, l'esprit humain n'est rien. L'esprit humain ne peut rien faire. L'esprit humain, ce n'est pas ce qu'en disent les maîtres de Qigong, à savoir qu'il peut faire ceci ou cela. Tous ces maîtres de Qigong qui disent que l'esprit humain peut faire ceci ou cela n'y connaissent généralement rien. Ils ne comprennent rien. Car beaucoup de maîtres de Qigong cultivent la conscience secondaire. Il y en a aussi qui sont possédés. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir, ni savoir non plus, quels pouvoirs supranormaux ils ont ou de quelle forme de gong il s'agit. Ils n'en savent rien. Donc, il leur semble qu'ils y ont pensé et qu'alors ils ont pu l'accomplir. Ils croient que cela a été fait par leur pensée. En fait, rien de tout cela n'a été accompli par la pensée humaine. La pensée humaine est très simple. Ce qui a réellement accompli ces choses sont les pouvoirs supranormaux. Tout ce que tu peux faire, c'est seulement si cette personne a tel pouvoir supranormal qu'elle peut accomplir telle chose. Si tu n'as pas ce pouvoir supranormal, tu peux penser jusqu'à ce que ton cerveau fasse mal, jusqu'à ce que tu ne puisses plus le supporter. Malgré tout, tu ne seras pas capable de le faire. Cela signifie que la pensée humaine commande aux pouvoirs supranormaux humains d'accomplir ces choses. Ce n'est pas la pensée elle-même qui le fait. Vous savez, certains maîtres de Qigong disent qu'ils font surgir les pouvoirs supranormaux des gens. Quel pouvoir supranormaux peut-il faire surgir? En fait, le pouvoir supranormal de cette personne existe déjà. Il a une certaine énergie. Il fonctionne déjà. Simplement, il n'est pas relié au cerveau de la personne et ne peut donc pas communiquer avec lui. Ainsi, celle-ci ne peut pas le commander. C'est pourquoi il ne fonctionne pas.
Lorsque ces maîtres de Qigong disent qu'ils ont fait surgir ton pouvoir supranormal, ils n'ont rien fait d'autre que de le connecter pour toi. De cette manière, cette sorte de pouvoir supranormal commence à fonctionner. Cela veut dire que chez un pratiquant, l'esprit commande aux pouvoirs supranormaux d'agir, comme chez une personne ordinaire, l'esprit commande aux organes sensoriels et aux membres. Ainsi, les activités de l'esprit sont semblables aux bureaux de production dans une usine. Les réalisations concrètes sont accomplies par les différents départements, ou comme dans une entreprise, le directeur général donne les ordres et les employés qualifiés les accomplissent. Voilà le principe. À propos de l'esprit, laisse-moi te parler incidemment du cerveau humain. Le cerveau humain, comment peut-il envisager toutes ces questions? Pourquoi le cerveau humain est-il si complexe? Du point de vue de la médecine moderne, le cerveau humain est très complexe. Mais il n'est pas aussi mystérieux qu'on l'imagine. Il est très complexe, mais il n'est pas très mystérieux. Parce que nous avons découvert que le cerveau du corps charnel d'un être humain se développe après la naissance. Ainsi, la véritable origine de sa pensée n'est pas dans le cerveau charnel. Au contraire, la pensée provient de l'esprit originel de la personne. Lorsqu'une personne veut faire quelque chose, c'est son esprit originel qui en réalité veut le faire. C'est de lui qu'émane cette pensée. Alors, quel rôle joue le cerveau? Le cerveau a la capacité d'organiser, de traiter et d'exprimer. Car ce qu'émane l'esprit originel n'est pas directement un langage de la société des gens ordinaires, mais une sorte de message cosmique. Dès que ton cerveau le reçoit, il l'arrange dans notre langage moderne ou l'organise en gestes ou en expressions faciales, en phrases, et il exprime pleinement. C'est la fonction du cerveau humain. Donc, nous avons découvert que l'origine véritable de la pensée humaine est l'esprit originel de la personne. Dans la Chine ancienne, il y avait l'expression « le cœur pense, le cœur pense ». Je dis que c'est tout à fait approprié. Certains peuvent sentir que leur pensée concernant certaines choses est localisée dans le cœur, que c'est leur cœur qui pense. Comment cela peut-il arriver? L'esprit originel de la personne se situe habituellement dans le palais Niwan, aussi appelé la glande pinéale. Lorsque celui-ci change de place pour aller dans le cœur, alors c'est ton cœur qui pense. Beaucoup de nos pratiquants et même des enfants peuvent sentir que lorsqu'ils pensent à quelque chose, ils le font à partir de leur mollet ou de leur talon. Certains sentent que leur estomac est en train de penser. Beaucoup de gens ont ce genre de sensation. Ta pensée peut surgir en effet là. Si ton esprit originel, l'esprit originel d'un pratiquant peut changer de position. L'esprit originel d'un enfant aussi peut vagabonder. Tu découvriras qu'en fait, tu penses depuis cet endroit, que ta pensée émane de cet endroit. Il en est en effet ainsi. Alors, concernant la pensée humaine, elle a plusieurs formes différentes. L'une est ce que les gens ordinaires désignent comme la pensée habituelle, normale. C'est cette sorte de pensée que tu as lorsque la conscience est très forte, lorsque la conscience principale est très forte, c'est-à-dire lorsque nous faisons quelque chose en toute connaissance et consciemment. Il y a encore une autre forme appelée le subconscient. Il y en a encore une autre appelée inconscient et une autre appelée inspiration, etc. Il y a ces formes de pensée. Nous allons en parler. Ce que nous appelons subconscient est en fait ce qui se passe quand tu termines quelque chose dans une sorte de transe, quand ta conscience principale ne fonctionne pas ou quand ta conscience principale est fatiguée. Considérant cela, lorsque tu reprends tes sens, tu peux penser « Comment ai-je pu le faire avec un esprit aussi absent ?» En fait, à ce moment, ton esprit originel secondaire contrôlait ton corps et accomplissait ces choses. Vous savez, durant la pratique du Qigong, pour beaucoup de gens, il peut devenir particulièrement évident que c'est leur conscience secondaire qui contrôle le corps. Il y a quelques années, il y avait une sorte de Qigong naturel. La personne courait en tous sens, comme si elle était folle, se roulant par terre. Mais elle-même, l'esprit originel principal, ne le savait pas. Mais tu vois la personne courir en tous sens. Elle court dans la direction d'un arbre, les yeux fermés.
Tout à coup, lorsqu'elle arrive juste en face de l'arbre, elle fait un écart et ne s'y cogne pas. À nouveau, tu vois, quand il y a une pierre sur le sol et qu'elle fonce dessus, elle saute et ne trébuche pas. Ses yeux sont fermés. Comment peut-elle l'éviter? C'est parce que son esprit originel secondaire contrôle son corps et agit. Il y a encore une autre situation. Si l'esprit originel secondaire d'une personne est très fort, ou si dans un certain état, ou dans un état de profond sommeil, lorsque l'esprit originel principal de la personne est immergé dans un profond sommeil, il peut apparaître un état appelé somnambulisme. Sa conscience principale n'est consciente de rien, la conscience secondaire le contrôle et dirige son corps pour faire certaines choses. Voilà ce que nous entendons par subconscient. Il y a aussi une autre sorte appelée inconscient. Nous sommes en train de parler des différentes formes du penser humain. En fait, cet inconscient se rapporte à ce qui semble être des souvenirs emmagasinés dans la mémoire de la personne. Apparemment, il existe une telle sorte de mémoire. C'est ce qui semble être compris par inconscient, parce que tous ces termes ont été inventés par les gens de lettres, non par des scientifiques. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de les expliquer, il est difficile de leur donner une définition. Quant à l'inspiration, elle est aussi une forme de la pensée. Elle apparaît également passivement. Parlons de la manière dont l'inspiration surgit. Bien sûr, le terme d'inspiration a aussi été inventé par les gens de lettres, non par les scientifiques. En relation avec un certain état, ils ont créé un tel terme, mais ils ne peuvent pas expliquer précisément de quoi il s'agit. Lorsque les gens de lettres parlent de l'origine de leur inspiration, lorsqu'ils font mention de ce terme, ils doivent en donner une explication. C'est pourquoi, le plus souvent, il explique comme suit. Toute la connaissance accumulée dans sa vie surgit comme une étincelle en un instant. Ou bien, l'essence des connaissances accumulées apparaît immédiatement. C'est l'explication qu'ils en donnent habituellement. En fait, je dis que cette explication ne tient pas, même selon le matérialisme. Car si on l'explique selon le matérialisme, plus on pense, plus le cerveau est utilisé, plus on devient intelligent. Plus le cerveau est utilisé, mieux il fonctionne. N'est-ce pas ce qu'on dit habituellement? Alors, lorsqu'on fait une expérience scientifique, ou qu'on écrit un essai, ou qu'on compose une musique, ou qu'on crée quelque chose, lorsque nous pressurons notre cerveau, pourquoi l'inspiration ne vient-elle pas? Quand ta conscience principale est très forte et qu'elle essaye de faire surgir l'inspiration, celle-ci ne vient pas. Dans la plupart des cas, l'inspiration vient lorsque la conscience principale n'est pas forte. Quand tu as l'esprit absent et que tu ne fais pas attention, quand ta conscience principale est relâchée, c'est alors qu'elle apparaît. C'est normalement ainsi. Tu rédiges un article et tu es bloqué. Il n'y a pas d'inspiration. Les mots ne viennent pas. Ou alors tu es en train de faire une expérience scientifique et tu n'arrives pas à la faire fonctionner. Tu te pressurises les méninges. Bien sûr, s'étant fatigué si longtemps, ton cerveau a le vertige. La pression monte jusqu'au point où les veines deviennent saillantes. Et tu n'as encore rien trouvé et tu te dis « Ah, oublions, laissons tomber, faisons une pause ». Tu vas marcher dehors, voir quelque chose de divertissant, tu te reposes un peu ou bien tu t'étends pour faire un petit somme et te reposer. Une fois étendu ou en promenade, sans intention, lorsque tu n'utilises pas ton cerveau, l'inspiration surgit. L'inspiration vient assurément toujours quand on est dans un tel état, quand ce n'est pas intentionnel, quand la conscience principale ne fonctionne pas. Comment peut-on l'expliquer ? Je dis à tout le monde, cette inspiration est en fait le résultat de l'esprit originel secondaire. Ce n'est pas l'esprit originel principal qui l'a produite, parce qu'une partie de la pensée de l'esprit originel principal est verrouillée. C'est pourquoi quand tu penses, peu importe ton intelligence et tes compétences, tu ne peux faire appel qu'au peu de connaissances que tu as apprises dans la société actuelle. Et pourtant, tout ce savoir acquis dans la société actuelle est celui des gens ordinaires. Tandis que ce que tu veux créer, la rédaction brillante que tu essayes d'écrire, tout cela auparavant n'existait pas. Autrement dit, ça sort du domaine de tes connaissances. Souvent, cela se passe ainsi. Comme l'esprit originel secondaire d'une personne est dans une autre dimension, il peut voir ces choses très clairement. Si tu n'arrives pas à t'en sortir, qu'il s'agisse d'une expérience scientifique, de la rédaction d'un texte littéraire ou d'une création, quand tu n'arrives pas à faire un pas de plus, plus tu cherches à le faire, tu crées des tensions dans ton cerveau et tu as mal à la tête. Tu peux même te sentir très fatigué et souffrant. Pourtant, malgré le fait qu'il ne contrôle pas ton cerveau, l'esprit originel secondaire constitue néanmoins avec ton corps une unité intégrée. Il contrôle aussi dans le même temps ton corps. Quand tu vas mal, il a mal aussi. Quand tu te sens malade, il se sent malade aussi. Quand l'inconfort devient vraiment grave, cela lui crée un problème. Regarde, cette affaire est si simple. Comment peux-tu être aussi stupide? Comment peux-tu ne pas le comprendre? Tu me donnes mal à la tête. Il a mal en même temps que toi, mais lorsque tu te relâches, car plus ta conscience principale est forte, plus tu contrôles ton cerveau. C'est pourquoi la conscience secondaire ne peut s'en mêler. Et dès que tu te détends, elle a une chance. Elle reflète dans ton cerveau des choses qu'elle connaît. Alors tout à coup, tu y penses, tu sens que l'inspiration a surgi. Souvent, il en va ainsi et des gens peuvent penser. Utilisons la conscience secondaire pour promouvoir le progrès de la société. Faisons quelques inventions de haute technologie. Ça sera super, n'est-ce pas? Cela ne marchera pas parce que sa connaissance aussi est très limitée. Elle ne peut connaître la situation que dans l'espace où elle existe actuellement. Alors ceux qui viennent d'un très haut niveau ne marcheront pas. Ils ne se préoccuperont pas du tout de tes affaires. Ils connaissent tous ce principe et ne sont pas sous ton contrôle. Parce que tous les phénomènes célestes, les Chinois parlent du ciel favorable, comme dans le temps céleste favorable, le lieu terrestre propice et l'harmonie de l'homme. Tout le monde connaît le livre des mutations. À l'heure actuelle, on l'étudie même à l'étranger. En fait, il décrit simplement les changements dans les phénomènes célestes de la Voie lactée et les changements correspondants de la société humaine ordinaire. Comment cela peut-il amener la société humaine à changer? Cela veut dire que des phénomènes célestes différents peuvent apporter des changements différents dans la société des gens ordinaires. La société humaine se développe en conformité avec les lois de l'univers. Tu vois comment le mouvement de la matière se conforme à des lois? Des formes différentes de mouvement apporteront des états différents de mouvement. Ils ont une dynamique différente. La Voie lactée tourne et les 9 planètes principales sont en orbite autour du Soleil. Cela veut dire que leur rotation, que leurs différents changements, que les changements dans les phénomènes célestes peuvent amener divers changements dans la société humaine ordinaire. Ainsi, comme je viens de le dire, ce n'est pas soumis à ta volonté, à ce que tu veux intentionnellement faire. Cela ne marcherait pas. Nous venons juste de parler d'inspiration. Au sujet de l'inspiration humaine, c'est tout pour cela. Ainsi, nous venons juste de parler de ces diverses formes de la pensée. Des formes de la pensée. Pourquoi en discutons-nous? C'est principalement pour te dire, nous avons discuté du fonctionnement du cerveau et de l'origine des pensées, parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre l'exercice de méditation. Aussi, devons-nous parler de la question, comment pratiquer la méditation? Comme je l'ai dit, il y a des gens dont la pensée ne peut devenir tranquille. Alors ils vont ici et là, cherchant quelqu'un qui puisse leur enseigner des techniques avancées qui leur permettent de devenir tranquille. En fait, les pratiquants authentiques trouvent cela risible. Car la véritable raison pour laquelle on est incapable d'être tranquille n'est pas quelque chose dont des techniques avancées ou une méthode puissent définitivement venir à bout. Comme pratiquant, si ta pensée peut être tranquille, tu es déjà à un très haut niveau. Car c'est relié à ton niveau. Cela veut dire que celui-ci et ton pouvoir de concentration se complètent et se renforcent l'un l'autre. Ton pouvoir de concentration ne détermine-t-il pas ton niveau? Et l'intensité de ton pouvoir de concentration ne dépend-il pas de la manière dont tu te débarrasses de tes attachements? Franchement, je te le dis, la vraie raison pour laquelle on ne peut pas devenir tranquille est que la pensée d'une personne n'est pas pure et propre. Il y a trop de choses du niveau des gens ordinaires auxquelles tu es attaché et auxquelles tu ne peux pas renoncer. Alors si on te demandait de renoncer complètement à tout cela, le pourrais-tu? il t'est impossible d'atteindre immédiatement un très haut pouvoir de concentration. C'est pourquoi tu dois y renoncer petit à petit. Tes attachements sont éliminés petit à petit. Tu franchis petit à petit les niveaux et ton pouvoir de concentration s'accroît aussi petit à petit. Finalement, cette étape est atteinte. Alors pourquoi y a-t-il des gens qui peuvent trouver le recueillement immédiatement? C'est à cause de leur qualité innée qui est dans un certain état. Ainsi, la raison fondamentale pour laquelle on est incapable de devenir tranquille n'est pas quelque chose qu'on peut chercher à l'extérieur de soi-même. Même si une déité t'a enseigné une grande méthode, tu serais néanmoins incapable de devenir tranquille. Mais il y a encore des gens qui pensent « Alors pourquoi y a-t-il des maîtres de Qigong qui nous enseignent à psalmodier le nom de Bouddha ou à se concentrer sur le Dham Tian, à focaliser sa pensée ou à visualiser pour nous permettre de trouver la tranquillité ?» Cela ne peut pas t'amener à la tranquillité. Cela ne peut avoir qu'un léger effet passager au début, et après ça ne marche plus. Ce n'est rien d'autre qu'une méthode de cultivation. Ce n'est pas un truc magique. Il n'y a pas de raccourci dans les questions de cultivation. Prenons un exemple. Des gens n'y croient pas et disent « Si je me concentre sur le Dham Tian, je peux atteindre la tranquillité » ou « Je peux devenir tranquille en chantant le nom de Bouddha ». Je dis « Pas nécessairement ». Certains disent que la voie de cultivation de l'école de la Terre pure est facile, que tu peux cultiver simplement en chantant le nom de Bouddha. En fait, je te dis que la facilité n'en est qu'apparente. Mais en fait, ce n'est pas facile. C'est ça la vraie nature du Xiulian. Comment cela pourrait-il être aussi simple? Réfléchissez. Comment chanter le nom de Bouddha? Tu dois le chanter avec tout ton cœur et ton esprit, sans aucune distraction. Chaque caractère apparaîtra devant tes yeux, tu chantes. Bouddha Amitabha, Bouddha Amitabha, Namo Bouddha Amitabha. Au point où chaque caractère apparaît devant tes yeux. Peux-tu atteindre ce pouvoir de concentration? Tu ne le peux pas. C'est certain que tu ne le peux pas. Certains n'y croient pas. Si tu n'y crois pas, essaye. Il y a de très nombreux exemples de cette sorte. Si tu n'y crois pas, essaie de chanter le nom de Bouddha. Les choses de la société ordinaire auxquelles tu es attaché sont trop nombreuses. Ton entreprise te donne des gratifications aujourd'hui et tu ne sais pas combien tu peux obtenir. Ou à ton travail, on distribue des appartements et on te dit qu'il y en aura un pour toi. Y en a-t-il vraiment un pour toi? Ton cœur bat la chamade, ou ton bureau. Ton enfant est en train de passer les examens d'entrée pour l'université, et tu t'inquiètes de savoir s'il pourra les réussir. De toute façon, les choses auxquelles tu es attaché sont trop nombreuses. Peut-être à tes parents ou à tes bons amis arrive-t-il quelque chose, et cela t'inquiète. Tu es toujours en train de penser à ces problèmes. Dis-moi que faire. Peux-tu trouver la tranquillité? De chanter le nom de Bouddha te permettra-t-il d'être tranquille? Si tu n'y crois pas, alors essaye de chanter. Tes lèvres chanteront « Bouddha Amitabha », mais ton esprit pensera à autre chose. Sur tes lèvres, tu auras « Bouddha Amitabha », mais dans ton esprit, tu penseras « Combien de gratifications pourrais-je obtenir ce mois ?» Et tes lèvres continueront de chanter « Bouddha Amitabha ». Si j'obtiens une petite gratification, pourquoi est-ce que je n'ai pas la cote avec la personne qui est responsable des gratifications? Mais sur tes lèvres, tu chantes encore « Bouddha Amitabha ». Plus tu y penses, plus tu deviens furieux. S'il me donne une petite gratification, je vais me disputer avec lui. N'est-ce pas ce qui va t'arriver? C'est garanti. Il s'agit d'une méthode de Xiulian, mais elle ne peut pas avoir un effet absolu. La véritable élévation dépend de toi-même. Ce n'est que lorsque tu renonces à tes attachements que tu peux accroître ton pouvoir de concentration. Qu'autrement dit, ton niveau aussi s'élèvera. Lorsque tu auras abandonné les attachements, alors bien sûr ton niveau s'envolera. Il atteindra cette hauteur et ton pouvoir de concentration atteindra aussi cette hauteur. Ils se complètent et se renforcent l'un l'autre. Certains disent « Si je regarde à l'intérieur dans le Dham Tian, je peux trouver la tranquillité ». Je dis « Pas nécessairement ». Pour certains, ce sont les yeux qui observent le nez qui observe le cœur et le cœur qui observe le Dham Tian. Ou bien on regarde directement à l'intérieur du Dham Tian. Les deux manières sont bonnes. Vas-y et observe. Regarde. Bien sûr, pour ceux qui raffinent le Dan, il y a une masse ronde de matière blanche dans l'abdomen. Elle doit aussi être pure. Et si elle n'est pas pure, il y aura de la matière noire, quelque chose de sombre et impur. Ainsi, tu regardes le Dan dans ton abdomen. Il est brillant. Tu regardes à l'intérieur de ton Dan Tian. Ton œil céleste est ouvert et peut le voir. Mais tu ne peux toujours pas être tranquille. Pourras-tu te focaliser là-dessus et atteindre la tranquillité? Tu n'y parviens pas. Tu regardes le Dan, son apparence est très belle. Un petit moment plus tard, ce Dan se transforme en appartement. Trois chambres et un salon. Au travail, on les distribue juste maintenant. Trois chambres et un salon. Ma fille vivra dans cette chambre, mon fils dans celle-ci, tandis que nous, le vieux couple, nous vivrons dans celle-là et le centre sera le salon. Pas mal. Peu de temps après, le Dan se transforme en appartement. Il est garanti que c'est comme cela. Cela revient à dire que la véritable raison pour laquelle on est incapable d'être tranquille réside dans le fait que notre propre cœur et notre esprit ne sont pas purs. Ainsi, élève-toi petit à petit. On ne te force pas à atteindre en un instant un certain stade. Dans le Xiulian, on te permet de t'élever toi-même graduellement. mais tu ne peux pas relâcher tes exigences envers toi-même. Tu penses, oh, le maître a dit de cultiver graduellement. Alors laisse-moi cultiver petit à petit. Si tu relâches les exigences envers toi-même, comment pourras-tu cultiver et pratiquer? Ainsi, si tu n'es pas vraiment capable de devenir tranquille, ce n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur de toi. La véritable cultivation est de cultiver le cœur humain. Cherche à l'intérieur de ton cœur. Ce n'est que lorsque tu auras élevé ton xing-xing et que tu seras parvenu à considérer les attachements de manière plus légère que tu pourras atteindre la tranquillité. Pendant de si nombreuses années, les gens l'ont recherchée comme une capacité de personne ordinaire. Mais en fait, elle est au-delà des gens ordinaires et s'accompagne d'un principe extraordinaire. C'est pourquoi ce n'est pas ce que tu peux obtenir comme une personne ordinaire qui apprend en y consacrant un peu de son temps et de son argent. Tu dois vraiment élever tes critères moraux et cultiver ton xing-xing avant de pouvoir l'atteindre. Et concernant les efforts déployés et la peine qu'on s'est donnée, évidemment, fatiguer ses os et ses muscles en est un aspect très mineur. Quant au cœur qui n'est pas tranquille et pur, cela vient de nous-mêmes, de notre subjectivité. C'est la raison fondamentale pour laquelle on ne peut pas atteindre la tranquillité pour cultiver. Mais maintenant, l'état de la société est aussi très compliqué. Il y a des gens avec toutes sortes de dispositions dans le cœur. Il y a toutes sortes de mauvaises personnes. L'autre jour, j'ai dit qu'il était même très difficile d'être simplement une bonne personne. Si tu ne me crois pas, essaie encore de prendre exemple sur Lei Feng. Tu récolteras beaucoup de sarcasmes et de moqueries. Que tu me crois ou non, suppose que ton entreprise te fasse jouer un rôle de modèle ou te donne une gratification supérieure ou fasse de toi le travailleur modèle. Je pense que cela t'amènera beaucoup de pression. Toutes sortes de sarcasmes croiseront ton chemin, des insinuations, etc. Tu es un travailleur modèle, tu as obtenu une importante gratification. Vas-y, fais ce travail. Tu es bon pour le faire, vas-y, fais-le. Nous ne pouvons pas le faire. Tu es un travailleur modèle, pourquoi arrives-tu si tard aujourd'hui? Tu dois arriver plus tôt. Et quand nous quittons le travail, comme travailleur modèle, tu dois quitter plus tard. Est-ce vrai ou non? En tout cas, c'est à toi de... À mon avis, il est même difficile d'être une bonne personne. Si tu ne me crois pas, essaie de faire quelque chose de bien. Cela veut dire qu'à part les raisons subjectives causées par les attachements humains qui affectent le xiulian et le perturbent, il y a aussi certains facteurs qui existent objectivement. Ce dont j'ai parlé n'en est qu'un aspect. Il y a aussi un autre aspect. Par exemple, bien sûr, avec la politique de réforme et d'ouverture, la situation dans le pays est très bonne. Les conditions de vie se sont améliorées et de nouvelles technologies ont été introduites. Et je dis que toutes sont de bonnes choses. Tu dis que ce sont de bonnes choses, même moi je dis que ce sont de bonnes choses. Mais là où il y a un avantage, il y a un désavantage. Il y a aussi des inconvénients. Les gens disent tous que la civilisation spirituelle se détériore. La civilisation matérielle s'est améliorée, mais la civilisation spirituelle n'a pas suivi. Tout le monde dit cela. Discutons de quelques exemples actuels. Maintenant, les valeurs morales de l'humanité sont déjà très basses. Les Occidentaux sont recouverts d'une couche extérieure de civilisation. C'est pourquoi, superficiellement, on accorde de la valeur à ce qu'une personne soit bien élevée. On insiste sur le fait d'être civilisé. Mais derrière cela, on fait des mauvaises choses. On est même... Je dis qu'on n'a même plus d'éthique familiale. On ose faire n'importe quoi, n'est-ce pas? On n'en a plus qu'un tout petit peu. Or, pour le peuple chinois, dans le passé, on avait des valeurs morales qui restreignaient les gens. Mais actuellement, ceux-ci ne croient plus à rien. On dit que c'est la période de la fin du fa. Cela veut dire qu'il n'y a plus de fa dans le cœur des gens pour les contraindre. Ils font n'importe quoi. Mais dans le cœur de certaines personnes, il y a encore un petit peu de moralité. Juste un tout petit peu de moralité. Un petit peu de conscience morale est encore là. Si ce petit peu venait à disparaître, instantanément, ça serait fini de l'être humain. Ainsi, il en reste juste un tout petit peu. Regarde ce que font les gens maintenant. Accompagnant la réforme et l'ouverture, de mauvaises choses sont entrées et elles peuvent affecter le xiulian des gens. Bien sûr, la réforme et l'ouverture sont bonnes, mais de mauvaises choses ne sont-elles pas aussi apparues? Des choses comme la pornographie, l'homosexualité, les drogues, la libération sexuelle. De toute façon, c'est un chaos terrible. La mafia, il y a toutes sortes de choses. Cela revient à dire que ces choses exercent objectivement un effet d'interférence. Parlons des arts. Si des séries télévisées et des films ne contiennent pas de scènes obscènes, de scènes de lit, plus personne, semble-t-il, ne les regarde. C'est la question du box-office et de l'audimat.
«
Si un roman n'a pas d'éléments pornographiques et pervers, le livre ne se vend pas, semble-t-il. C'est le problème du volume des ventes. Maintenant, les critères moraux des gens sont très bas. Alors, on recherche n'importe quoi pour étancher sa soif. On recherche mentalement des frissons. Ces choses-là sont les bienvenues. Plus elles apaisent leur soif, plus elles assouvissent leurs désirs. La moralité est en train de chuter. Dans le passé, la moralité dans son ensemble connaît une gigantesque dégringolade. Pour devenir un artiste, un chanteur ou un danseur dans le passé, on devait être diplômé d'un institut de musique ou d'un institut de danse. Au moins, tu devais être diplômé d'une école d'art ou tu devais recevoir une éducation professionnelle. Maintenant, il peut y avoir quelqu'un avec une voix rauque qui se tord dans des mouvements disgracieux. Son apparence est bizarre, avec des cheveux longs. Et ça, c'est un chanteur. Les gens le suivent comme s'ils étaient devenus fous. Cela veut dire que lorsque le niveau de la moralité des gens chute, leur littérature et leur forme d'art, tout s'effondre en même temps. Qu'est-ce que les gens admirent ? Les chanteurs avaient pour habitude de travailler sur leur voix. Comme vocaliste, il faisait attention à l'art d'émettre des sons. Pourtant, cette personne-là pousse au maximum sa voix éraillée. Je pense que c'est simplement « Ah !» Ses veines gonflent et la foule applaudit comme si elle avait perdu la tête. Cela veut dire que toute chose est en train de changer. Il y a aussi quelques œuvres artistiques, des œuvres des beaux-arts qui, si elles ne montraient pas des corps dénudés ou des choses de ce genre, personne, semble-t-il, ne les regarderait. Je dis que pour les Occidentaux, ça va encore. Mais si un Chinois ou une Chinoise se dénude, je dis que ça fait vraiment mal à voir. Simplement pour souligner cela. Toi, pratiquant, vas-tu regarder la télévision, regarder des films ou lire des livres? Dès que tu l'allumes ou que tu l'ouvres, toutes ces choses sont là. Comme pratiquant, nous l'avons dit dans le passé, on ne doit pas entrer en contact avec cela, n'est-ce pas? Pour éviter des interférences dans ton soulien et ne pas faire surgir les sept émotions et six désirs. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas éviter leur contact. Tu ne les regardes pas, mais tu ne peux pas t'empêcher de les voir. Si tu ne regardes pas la télévision ou des films, ou si tu ne lis pas des livres, tu te promènes dans la rue, n'est-ce pas? Dans les magasins, il y a des images de nus et toutes sortes de choses. Tu les vois aussitôt que tu lèves le regard. Cela veut dire que ces choses ont pour objectif d'interférer avec la cultivation. Mais nous te l'avons dit, si les conditions objectives pour cultiver ne sont pas bénéfiques pour certains, en revanche, elles le sont, à mon avis, pour d'autres. Lao Tzu a dit, « Quand une personne supérieure entend parler du Tao, elle le pratique avec diligence. Quand une personne moyenne entend parler du Tao, tantôt elle le pratique, tantôt non. Quand une personne inférieure entend parler du Tao, elle en rit bruyamment. Si elle n'en riait pas, le Tao ne serait pas le Tao. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand une personne supérieure entend parler du Shaolin, elle dit « Oh, c'est excellent !» Et elle a le cœur à pratiquer. Elle étudiera et cultivera directement jusqu'au bout. Elle pensera que c'est vraiment bien. Elle ne visera rien d'autre que le succès dans la cultivation. Elle sera déterminée et ajustera son cœur au Shaolin. C'est la personne supérieure qui entend parler du Tao. Peu importe qui me dit de ne pas cultiver, je n'écouterai pas. Je continuerai de cultiver. Alors quand une personne moyenne entend parler du Tao, tantôt elle le pratique, tantôt non. Pratiquer c'est bien, ne pas pratiquer c'est bien aussi. Elle voit que tout le monde est venu pour apprendre, plus de 4000 personnes. Cela doit être un événement. Et ainsi, elle vient pour vérifier, pour voir ce qui se passe. Elle écoute et trouve que c'est bien. Elle n'avait pas entendu parler de ses connaissances auparavant. C'est tout frais. Une fois rentrée à la maison, aussitôt occupée, si les avantages matériels deviennent encore plus tangibles, elle oublie tout ce qui concerne la pratique. C'est le cas d'une personne moyenne qui entend parler du Tao. De toute façon, si tu me pousses avec force, je pratiquerai. Si tu ne me pousses pas, je ne le ferai pas. Tantôt elle pratique, tantôt non. Quand une personne inférieure entend parler du Tao, elle en rit bruyamment. Si elle n'en riait pas, le Tao ne vaudrait rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand une personne inférieure entend parler du Shaolin, elle en rit avec force. Elle en rit réellement à gorge déployée. Elle ne croit à rien de ce qui y tient. Elle pense « Tu es incroyable. Les avantages pratiques sont là. Pourtant, tu ne te bats pas et tu ne cherches pas à les obtenir. Ta vie n'est-elle pas morne? Regarde les autres personnes. Ils ont obtenu de l'argent et de belles femmes et donnent libre cours à leur passion. Qu'en est-il avec tes gens? Tu es incroyable. Tu es absolument incroyable. Quand quelqu'un te frappe, tu ne le frappes pas en retour. Quand on t'insulte, tu ne réponds pas. Bien sûr, si ce genre de personne ne se moquait pas de toi, je dirais que ce Tao ne serait pas précieux. Lao Tzu a dit, le Tao ne serait pas le Tao. Ce serait simplement quelque chose qu'on trouverait dans la rue et tu n'aurais qu'à le ramasser à ta convenance et réussir dans le Shaolin, simplement comme ça. S'il ne se moquait pas de toi, il ne serait pas précieux. C'est précisément parce qu'il est précieux que la soi-disant personne intelligente, ou celle qui pense qu'elle l'est, est en fait stupide. Nous venons juste de parler de la tranquillité et du fait de ne pas être capable d'entrer dans la tranquillité, de différentes manifestations et formes du penser humain, et aussi des circonstances qui interfèrent avec la tranquillité. C'est tout ce que nous dirons à ce sujet. Bien sûr, il y a autre chose qui interfère avec sa propre tranquillité et dérange sa cultivation. Il s'agit du karma des pensées. J'en ai parlé auparavant. Le karma des pensées peut aussi perturber sa propre pratique. Il peut produire beaucoup de gros mots. Chez certains, il se manifeste de manière tout à fait visible. Mais si ta conscience principale est claire et que tu peux toi-même te contrôler, nous pouvons t'aider à éliminer ce karma. Si tu es entraîné par lui, tu n'es pas un pratiquant. N'es-tu pas celui qui cultive? Si par lui tu commences à dire des gros mots et perds ta foi, comment pourras-tu cultiver? Qui prendra soin de toi? N'est-ce pas la question? Ensuite, parlons d'une autre question. De quelle question? Dans le milieu des pratiquants, nous entendons souvent ce genre de phrase. La qualité innée d'une personne est bonne ou mauvaise? Qu'est-ce que la qualité innée d'une personne? En fait, c'est seulement la quantité relative de matière du « de » et du karma noir qui détermine si la qualité innée d'une personne est bonne ou mauvaise. Par exemple, une personne qui a beaucoup de karma, habituellement a un grand champ de karma autour de son corps. L'œil céleste de beaucoup de personnes est ouvert à un très bas niveau. Pourtant, elles peuvent voir très clairement. Si ton niveau est bas et que tu ne parviens pas à voir clairement, cela est alors vraiment mauvais. Mais il y a des gens dont le niveau est bas, pourtant ils peuvent voir clairement. Ils peuvent voir qu'actuellement, les gens ont des virus partout sur leur corps. Il y a des virus partout. En fait, c'est simplement du karma qui se manifeste dans cet espace. C'est du karma. Comme je l'ai dit, si beaucoup de karma est accumulé, cela forme un champ autour du corps de la personne. Et ce champ de karma, ce karma s'oppose aux caractéristiques de notre univers. Il est une substance qui va à l'encontre des caractéristiques de l'univers. Comme tel, la qualité d'éveil de cette personne devient faible. Habituellement, quand la qualité innée d'une personne est mauvaise, sa qualité d'éveil est aussi mauvaise. Pourquoi est-elle mauvaise? Parce qu'elle a commis tant de méfaits et engendré ainsi tellement de karma. Donc elle croit, ce à quoi elle croit, ce ne sont que de petits intérêts concrets de gens ordinaires. De plus, cette chose, ce karma l'enveloppe et la sépare des caractéristiques cosmiques. Elle-même s'est coupée des caractéristiques cosmiques. Alors son esprit ne croit pas à la vérité de l'univers. Si tu mentionnes le Qigong ou le Xiulian ou la religion ou même quelques phénomènes de Qigong dont les gens parlent et aussi quelques phénomènes dans des environnements variés que les gens ne peuvent expliquer, aussitôt que tu en parles, cette personne n'en croit rien. C'est certain. Non seulement elle n'y croit pas, mais intérieurement elle se moque de toi. C'est presque comme si vous aviez des problèmes mentaux. Elle pense de cette manière à ton sujet. Elle pense que son esprit est clair. Elle pense qu'elle est la plus rationnelle. En fait, c'est à cause de ses pensées, son corps tout entier est entouré de karma. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas s'éveiller et c'est pourquoi il lui est très difficile de s'éveiller. Maintenant, si une personne a beaucoup de matière blanche, il y aura un champ très grand de « de » de matière blanche autour de son corps. Ce « de », cette matière blanche, a été obtenue grâce à de bonnes actions, en supportant des tribulations ou par des efforts. C'est pourquoi il est assimilé aux caractéristiques cosmiques. Ainsi, si tu parles de cultivation à ce genre de personne, exactement comme ce que je viens de dire à propos d'une personne supérieure qui entend parler du Tao, elle y croit immédiatement. Ce dont tu parles, même si je ne l'ai pas vu, malgré tout j'y crois, parce qu'elle est reliée aux caractéristiques cosmiques. C'est ce que nous appelons une bonne qualité innée. Voilà comment ce qui est appelé une bonne ou mauvaise qualité innée est engendré. À l'opposé, la matière noire est obtenue parce qu'une personne a fait de mauvaises choses, commis des méfaits. 2. La vertu est obtenue quand tu t'es donné, quand on a profité de toi ou que tu as enduré des épreuves ou accompli quelques bonnes actions. La quantité de ces deux matières de nature très différente détermine si la qualité innée de quelqu'un est bonne ou mauvaise. Je viens d'expliquer que la qualité innée détermine si une personne est bonne ou mauvaise. Ce fait est certain, mais en même temps, cela ne peut pas être considéré comme trop absolu. Par exemple, une personne de très bonne qualité innée est souvent affectée par l'environnement, exactement comme la personne du genre dont j'ai parlé. Une personne qui a l'état de Qigong. L'éducation qu'elle a reçue et l'environnement avec lequel elle est en contact l'amènent à penser qu'elle est très rationnelle et très matérialiste, qu'elle est d'un matérialisme absolu. À propos de matérialisme absolu, je pense qu'il n'y a rien d'absolu. Le matérialisme absolu est déjà faux. Selon une telle personne, tout ce qu'elle n'a pas encore expérimenté ou appris de cette vie et de ce monde, elle n'y croit pas. Quel que soit ce dont tu lui parles, elle n'y croit pas. Mais la qualité innée d'une telle personne n'est pas nécessairement mauvaise. Il y a des cas comme cela. Par exemple, quand j'enseignais dans un séminaire à Pékin, il y avait une telle personne. Dans ce champ, nous ouvrons l'œil céleste des gens le second jour et beaucoup de personnes peuvent voir des choses par intermittence. Certains peuvent voir quelque chose plus clairement. Il était l'un de ceux-là. Il pouvait voir plutôt clairement. Immédiatement, son œil céleste, non seulement il pouvait voir clairement, mais il pouvait aussi communiquer directement avec mon corps de Fa. Il pouvait voir ce que j'émettais. Quand je parle, j'émets depuis différents endroits de mon corps des pouvoirs supranormaux de toute forme. Il pouvait regarder comment était émis le Falun, comment il atterrissait sur le corps des gens et comment le corps des gens était réajusté, combien il y avait de corps de Fa derrière chaque personne. Il pouvait voir tout cela. Alors durant la pause dans le hall à l'extérieur de la salle de conférence, comme on prenait une pause à l'extérieur, il a parlé aux gens de ce qu'il avait vu et chacun l'écoutait avec un grand intérêt. Tout le monde s'était rassemblé autour de lui. On disait « Oh, ton œil céleste est vraiment bien ouvert, tu peux voir tout cela ». Et il a continué à parler. Mais à la fin, il a dit « Je ne crois pas en ces choses ». D'une manière ou d'une autre, ses pensées se sont retournées et il n'y a plus cru. Cela veut dire, comme je l'ai dit, que ce n'est pas absolu. Il y a encore des gens dont la qualité innée est très basse. Mais grâce à l'influence de l'environnement, leur qualité d'éveil peut devenir bonne sur certains points ou sur certaines questions, encore qu'elle soit limitée. Au cas où tout le monde à la maison croit à la religion, ou s'il y a des gens à la maison qui ont une qualité innée très bonne, qui pratiquent le Qigong ou d'autres méthodes de cultivation, et chez qui apparaissent quelques pouvoirs supranormaux, ils peuvent voir tout cela. Cela peut les amener à croire. Cependant, c'est limité. Voilà ce que je voulais dire à propos de la question de la qualité innée. Ainsi, maintenant que nous sommes à cette question de la qualité innée, qu'est-ce qui détermine la quantité de matière blanche ou noire d'une personne? J'ai déjà expliqué le processus de transformation. Une partie se transforme lorsqu'on se met à faire des efforts ou à supporter des épreuves. La substance noire peut se transformer en substance blanche. En accomplissant de bonnes choses, tu peux en même temps engendrer directement de la matière blanche. Ou lorsque quelqu'un te maltraite ou te crée des problèmes, il peut te donner de la matière blanche. La matière noire est produite en faisant des choses qui ne sont pas bonnes. Cependant, une personne se demandait, « Je fais de bonnes choses, je fais de mauvaises choses. » Faire de bonnes ou de mauvaises choses, à mon avis, pour un pratiquant, certaines personnes pensent, faisons de bonnes actions. Quelles bonnes actions pouvons-nous faire? Maître, indiquez-nous comment nous pouvons accumuler du « de ». En fait, je n'ai jamais parlé de tout cela auparavant. Tu n'auras pas assez de temps si tu commences à en accumuler maintenant. Parce que ce qui a été déposé l'a été au cours d'un temps incalculable. Le petit peu qui provient de cette vie-là, ce que tu as accumulé durant la première partie de ta vie est très limité. Alors tu n'auras pas la possibilité d'en accumuler beaucoup. En fait, cela a été accumulé durant une période de temps extrêmement longue. Tu dis que tu veux en accumuler maintenant, mais c'est trop tard. Les pratiquants croient au non-agir. Pourtant, tu courras partout faire de bonnes choses. Même si vraiment tu peux accomplir du bien, peut-être ne rencontreras-tu même pas une bonne action à faire. Dans le passé, à Pékin, j'ai raconté la blague suivante. Supposons que tu veuilles faire du bien. Même si tu vas à bicyclette partout à travers Pékin, tu ne rencontreras pas nécessairement une bonne chose à faire. Comment pourrais-tu en faire plusieurs? En fait, nous les pratiquants, nous parlons du non-agir. Pourquoi parlons-nous du non-agir? Parce qu'on ne doit pas prendre le chemin de l'action et faire ce qu'on veut. Certains disent, nous ne pouvons pas faire de bonnes choses. Je dis qu'il y a beaucoup de gens qui font de bonnes choses. Si tu rencontres quelque chose de bien que tu peux faire, si c'est juste là en face de toi, et que tu peux incidemment aider quelqu'un, alors aide-le, il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas aller ici et là faire de telles choses intentionnellement, à dessein, parce que tu ne vois pas la nature de la situation et les relations causales. C'est pourquoi tu risques de faire quelque chose dans l'erreur. Il te semble que c'est une bonne chose, mais si tu l'as fait, peut-être que c'est quelque chose de mauvais. Parce que tu dois te comporter selon les principes des niveaux supérieurs. N'y a-t-il pas une relation prédestinée derrière cette situation? Tu ne peux pas la voir. Alors tu es amené facilement à faire quelque chose d'incorrect. Par exemple, quand tu vois une personne commencer une querelle ou une bagarre avec une autre, et que tu passes par là, et que tu les sépares, ou que tu t'en mêles, peut-être commets-tu quelque chose de mauvais. Cette personne l'a invectivée. Bien peut-être l'avait-il lui-même invectivée dans le passé et elle venait pour régler ses comptes. Tu es intervenu et ils ne peuvent pas régler leurs comptes. C'est pourquoi ils devront le refaire la prochaine fois. Alors tu es intervenu de manière incorrecte. Cela veut dire, comme tu ne vois pas les relations de cause et d'affinité, tu peux être amené à faire des choses erronées. Alors cela n'amène-t-il pas à la question suivante, celle que se poserait quelqu'un d'entre nous qui penserait. Cela signifie-t-il que personne ne doit faire de bonnes actions? Non, ce n'est pas cela. J'enseigne le fa à ceux qui pratiquent le gong, à ceux qui cultivent et pratiquent. Tandis que faire ou ne pas faire de bonnes choses, c'est pour les gens ordinaires. Les gens ordinaires font attention à accumuler le de et accomplir de bonnes actions. Tandis que les pratiquants font attention à préserver le de et au non-agir. Cependant, inversement, supposons que tu vois un assassin ou un incendiaire et que tu ne fasses rien à ce sujet, je te dis que ce serait le problème de ton xinxin. Si tu vois ce genre de choses, alors je dis, tu dois faire quelque chose à ce propos. Fais ce que tu peux. Supposons que tu vois une personne utiliser un couteau pour chercher à tuer quelqu'un et que tu sois une femme fragile, si tu t'en mêles, tu seras toi-même poignardé. Tu pourrais appeler d'autres personnes pour qu'elles interviennent. Lorsque tu rencontres vraiment cela, tu peux faire quelque chose. Ou peut-être tu vois un robinet d'eau qui fuit et personne n'y prend garde. Si tu ne le fermes pas, n'est-ce pas aussi un problème de xinxin? Cela signifie que nous ne devons pas intentionnellement et artificiellement faire tout ce que nous voulons. Alors parlons de ce principe du point de vue des pratiquants. Beaucoup de gens cultiveront et pratiqueront dans le futur. Ceux qui ne pourront pas s'élever dans le surlien ne deviendront-ils pas les gens ordinaires du futur? Si l'on dit qu'on ne peut rien faire, en quoi la société en bénéficiera-t-elle? Je vous le dis, cela bénéficiera la société. Les gens du futur, ou tous ceux d'entre nous qui se seront élevés grâce au surlien, auront... Réfléchissez. Quand le cœur des gens les empêche de commettre des méfaits, cela n'enlève-t-il pas le devoir de faire de bonnes actions? Si personne ne commet de mauvaises choses, si tout le monde est à ce point bon, toi pour moi, moi pour toi, si tout le monde est bon comme cela, alors la sécurité publique et l'ordre social s'amélioreront, n'est-ce pas? En principe, nous parlons du fa dans le cœur. Comment une personne peut-elle se transformer véritablement du fond du cœur? Ce que tu fais extérieurement, comme encourager les gens à renforcer la justice, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais quand on te recommande quelque chose ou quand la loi exige que tu fasses ceci ou cela, il s'agit à vrai dire d'un contrôle extérieur qui change ton comportement superficiel. Mais cela ne peut pas contrôler la nature innée, essence de l'homme. C'est seulement quand l'essence, la nature innée d'un homme change, que l'homme devient vraiment meilleur. Voilà le principe dont nous parlons. Maintenant, à propos de la question de la qualité innée, elle entraîne la question de la qualité d'éveil, n'est-ce pas? Je viens de dire que la qualité innée d'une personne, bonne ou mauvaise, détermine si sa qualité d'éveil est bonne ou mauvaise. Voilà la question. Ainsi, qu'est-ce que l'éveil? Parlons de l'éveil. Sur l'éveil, beaucoup de gens n'ont pas les idées claires. Certains disent, si une personne est intelligente, c'est l'éveil. Aujourd'hui, on le comprend de cette manière. Supposons qu'une personne soit devant son supérieur ou devant ses parents ou dans d'autres circonstances. À peine on parle de quelque chose qu'elle comprend immédiatement et agit selon leur attente. On dit de cette personne qu'elle est vraiment maligne. Sa qualité d'éveil est vraiment bonne. C'est souvent comme cela qu'on le comprend maintenant. Je te le dis, l'éveil n'a rien à voir avec cela. En fait, l'éveil n'est pas du tout le terme d'une personne ordinaire, mais un terme bouddhiste. C'est un terme de Shōlian, un mot utilisé par les pratiquants. Cela ne ressemble en rien à l'éveil dont les personnes ordinaires parlent. Parfois, je vais dans les temples et je vois des moines qui disent aussi cela quand ils voient que la qualité de compréhension d'une personne est bonne. Ils entendent par là qu'elle est maligne. Si tu jettes quelque argent dans la boîte à aumônes et que tu t'agenouilles pour prier Bouddha, dang, le moine fera sonner la cloche et dira que le Bouddha te bénisse, te donne la grande sagesse, te rende intelligent. Ils le comprennent aussi de cette manière. Ce dont je parle n'est pas du tout cela. Le véritable éveil désigne la capacité d'une personne au cours du Shōlian à comprendre la cultivation elle-même, le fa enseigné par son maître. Il s'agit du degré de compréhension d'un homme face aux tribulations qu'il rencontre durant sa cultivation, de sa capacité à les traverser et en prendre conscience. C'est ce que nous entendons par éveil. Cet éveil est totalement opposé à l'éveil des personnes ordinaires. Je vous le dis, à un niveau supérieur, les principes sont complètement inversés. Ce que tu appelles bien est mauvais, ce que tu appelles mauvais, on dit qu'en fait c'est bien, n'est-ce pas ? Parlons de cet éveil. Parlons de la personne dont les gens ordinaires disent qu'elle a une faible qualité d'éveil. En fait, elle n'est pas mauvaise du tout. Si la qualité d'éveil est faible, les gens disent « Oh, elle est vraiment stupide ». Je dis que si cette personne est stupide, c'est une bonne chose. Je dis que la stupidité, c'est être malin. Alors qu'une personne avec une bonne qualité d'éveil, une personne vraiment dégourdie, je dis qu'en fait, elle est stupide. C'est précisément l'envers à l'endroit. Parlons de quelqu'un qui est stupide. Parlons d'un imbécile. Personne ne dit que c'est bien d'être un imbécile. Qui dit qu'un imbécile est bien ? Un passant verra un imbécile et lui donnera un grand coup sur la tête. Vlan, espèce de grand imbécile. On lui botte les fesses, boum, en disant « Si stupide, allez, dégage !» Il ne peut obtenir aucun bénéfice durant sa vie. Tout ce qui constitue ses avantages personnels est complètement accaparé par les autres. Chacun ne dit-il pas qu'il est stupide ? Mais moi, je vous le dis, il n'y a personne de plus malin que lui. Tu le frappes sur la tête et tu dis « Tu es si stupide !» Plus fort tu frappes, plus tu lui donnes de deux. Tu lui donnes un coup de pied, toi, grand imbécile. Autant de force tu mets dans ton coup de pied, autant de deux tu lui donnes. Si tu l'injuries, tu lui donnes aussi du deux. À quoi servent ces avantages concrets ? Ce petit peu d'avantages personnels au milieu des gens ordinaires. Un clin d'œil, une centaine d'années et tout s'en est allé. Tandis que la vie de quelqu'un est à long terme sans fin. Cependant, il a été privé par les autres de tous les avantages concrets. Autant tu lui enlèves, autant tu lui donnes de deux. Vas-y, injurie-moi, frappe-moi, dépouille-moi, j'en suis content, je prends tout. Dis-tu qu'il est stupide ou malin ? En ce qui concerne sa manière de penser, le cerveau de son corps physique n'est simplement pas très agile. Il ne travaille pas trop bien, mais son esprit originel n'est pas bête. J'ai découvert que certains imbéciles, certains à l'esprit lent, ont leur cerveau verrouillé. Ils sont tous venus avec un but. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Leur cerveau a été verrouillé de sorte qu'ils ne peuvent pas devenir des filous et se ruiner eux-mêmes parmi les gens ordinaires. N'est-ce pas ce cas ? Aussi, ce que les gens appellent malin, bien sûr, nous ne voulons pas que tu deviennes ce genre d'idiot. Si tu l'étais, comment pourrais-tu cultiver ? Serais-tu capable de cultiver ? Bien sûr, dans ce cas, tu ne pourrais plus cultiver. Comme tu serais un peu simplé, tu ne comprendrais rien. Quelle sorte de personne nous te demandons d'être ? Ce que nous te demandons est de prendre très légèrement tes avantages personnels. Simplement, si tu fais cela, les gens diront que tu es stupide. Mais en revanche, ils découvriront que tu n'es pas stupide. Pourquoi ? Parce qu'au travail et ailleurs, tu agis toujours très bien. Qui pourrait dire que tu es bête ? Je vais vous donner un exemple. Quand j'enseignais dans un séminaire dans le Nord-Est, il y avait une personne de ce genre. Il était maître de conférence à l'université. Dans le passé, puisqu'il avait appartenu aussi à une voie de cultivation de la conscience secondaire, au début, il était extrêmement bon. Maintenant, ça ne va plus. Il s'est ruiné parmi les gens ordinaires, car son esprit originel secondaire a réussi dans la cultivation et l'a quitté. Mais lui-même s'est ruiné parmi les gens ordinaires. Mais au travail, cette personne maintenait l'attitude suivante. Il appartenait à une voie de cultivation singulière et disait « Ce qui est mien, je l'accepte. Ce qui ne l'est pas, je ne me battrai pas pour l'avoir. » Il avait ce genre de point de vue pour agir dans la société. En fait, son système lui demandait d'être ainsi. Par exemple, on distribuait des appartements et tous ceux qui en avaient besoin étaient réunis. Chacun devait présenter les motivations qui justifieraient le besoin d'un appartement. Si tu pensais que tu devais obtenir un appartement, tu devais présenter ta situation. Parle un peu de tes raisons. Ainsi, chacun présentait pourquoi il demandait un appartement. Les appartements étaient en nombre limité. Tout le monde ne pouvait en avoir un. Alors chacun, en attente d'un appartement, présentait son cas. Chacun faisait de son mieux, recherchant ce qui pouvait l'avantager. Lui était assis là sans dire un mot. Finalement, le superviseur évalua les circonstances et dit « Un appartement doit lui être donné. Il y en a un pour lui. » Les autres n'ont pas pu le supporter et commencèrent à dire « Cet appartement ne doit pas lui être donné. » Comment pourrait-il lui être donné? Moi, j'en ai besoin. Et ainsi de suite. Alors, si cela avait été une personne ordinaire, il aurait commencé une dispute avec eux. Même le superviseur m'a donné son accord. L'appartement doit m'être donné. Et tu persistes à contester? N'es-tu pas en train de contester mon appartement? Il aurait commencé une dispute avec eux. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, « Si tu le veux, alors prends-le. » Ces mots résonnent très simplement, mais réfléchissez. C'est dans la vie réelle, ce genre de personne... Quand les intérêts sont très exacerbés et qu'une personne en vient à prononcer de telles paroles, on va dire de lui qu'il est complètement stupide, n'est-ce pas? Cette personne est si stupide. Les autres ne l'ont pas compris et ont demandé. Si tu ne veux pas des avantages pratiques, que veux-tu? Il a répliqué. Ce que les autres ne veulent pas, je le veux. Ce que les autres ne veulent pas, il le veut. Cela leur a semblé très frustrant. Ils ont dit, « Dis-nous, parmi les gens d'aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas. Tout est bon. Les pierres par terre que les gens shootent et que personne ne ramasse. Les autres n'en veulent pas. Les veux-tu ? » Il a dit, « Alors je les veux. » Bien sûr, il n'allait pas ramasser ces pierres. Il exprimait simplement un principe que les gens ordinaires ne peuvent comprendre. Quel principe ? Nous, les pratiquants, nous devons renoncer à ces attachements. Ces choses ne signifient rien. Ce que j'ai gagné peut être gardé pour toujours. C'est ce qui peut être gardé éternellement, des milliers d'années, des millions de millions d'années, mais ce que tu possèdes disparaît en un clin d'œil. Comme pratiquants, nous renonçons à ces attachements. Je ne me bats pas avec les autres. Si c'est à moi, je l'accepte. Et si ce n'est pas à moi, je ne me bats pas pour cela. Mais les gens ordinaires ne peuvent s'éveiller à ce principe. Parlons à un niveau plus haut. Racontons une blague comme exemple. Les gens ont dit que le monde de la joie parfaite, beaucoup de pratiquants sont allés au monde de la joie parfaite. Ils disent que le monde de la joie parfaite est très beau. Le monde de la joie parfaite est fait d'or. Les arbres sont en or, le sol est en or, les maisons sont en or, les corps des Bouddhas sont en or, même les oiseaux sont en or. C'est d'une totale splendeur. Mais là, tu ne trouveras pas une seule pierre. Les gens disent que ce qu'ils utilisent comme argent sont précisément ces petits cailloux. Vrai ou pas, nous n'en parlons pas. Bien sûr, il y a une expression. Ce qui est rare est précieux. La rareté apporte la valeur. Les choses sont précieuses et ont de la valeur seulement si elles sont rares. Bien sûr, il exprimait seulement ce point. Il n'allait pas vraiment ramasser un caillou. Quand je réussirai dans le Siolien, je prendrai un caillou avec moi. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il exprimait simplement un principe que les gens ordinaires n'arrivent pas à comprendre. Nous venons maintenant de parler d'une personne stupide, d'une personne qui traite ses intérêts avec légèreté. Maintenant, parlons à l'inverse d'une personne vraiment maligne. Une personne maligne n'est pas bonne. Les gens ordinaires disent qu'une personne maligne a une bonne qualité d'éveil. Je dis que sa capacité d'éveil est précisément faible. Elle n'est pas bonne. Pour une personne futée, les avantages concrets sont très importants. De plus, habituellement, une telle personne sait comment faire le travail superficiellement. Ainsi, ses chefs l'ont en grande estime et elle obtient ce que d'autres ne peuvent obtenir. Si elle a obtenu ce que d'autres n'ont pu obtenir, ne leur a-t-elle pas fait du tort? N'a-t-elle pas obtenu ce que d'autres étaient censés avoir? Alors, ne devra-t-elle pas les payer en retour avec du teu? Une personne de ce genre gagne beaucoup d'avantages pratiques, et ceux-ci deviennent de plus en plus importants pour elle. Alors, son cœur se rétrécit de plus en plus. Elle en vient à apprécier les avantages concrets plus que n'importe quoi d'autre. Ne devient-elle pas une personne de ce genre? Réfléchissez. Une telle personne est habituellement très égoïste et son cœur est très étroit. Elle pense être réaliste. Qu'est-ce ton Siolien? Aussitôt qu'elle en entend parler, elle pense que c'est ridicule. Quel qigong ? Où y a-t-il une telle chose ? Dans son esprit, elle se moque de toi. Elle pense que tout cela n'est que superstition, que tu es complètement ridicule. Regarde-moi, pense-t-elle. Ces avantages pratiques que j'ai gagnés, être vraiment capable, c'est ça. Bien sûr, certains ont de l'estime pour des personnes de ce genre, parce qu'ils sont tous des gens ordinaires. Nous te disons, nous essayons de dire à une personne de ce genre de maintenir son « deux », de laisser tomber ses attachements. Elle est très difficile à sauver. Nous ne parlons pas d'une personne de ce genre, n'est-ce pas? Quoi qu'une personne fasse, quelle que soit la chance qu'elle rencontre, tout ce qu'elle obtient, c'est en échange de son « deux », n'est-ce pas? Lorsqu'il aura disparu, il ne lui restera rien. tout se sera volatilisé pour toujours. Dis-moi, n'est-ce pas stupide? Ce que nous entendons par une personne avec une bonne qualité d'éveil est simplement celle dont je viens de parler. Quelqu'un capable de chercher le Tao et qui a ce désir dans le cœur. En même temps, au cours du Xiulian, face à de nombreux problèmes, elle peut en prendre conscience. Certains, après avoir pratiqué pendant un temps, ils m'écrivent toujours ce genre de notes, disant « Maître, j'ai maintenant pratiqué pendant un temps. Comment se fait-il que je souffre ici, que je souffre là? Tu penses que pratiquer le gong, c'est manger du miel? Tu penses que pratiquer le gong, c'est s'allonger dans un berceau? Où y a-t-il une telle chose? Pratiquer le gong est précisément supporter les épreuves, rembourser son karma. Alors tu dois souffrir, tu dois avoir mal. Tu secoues simplement la poussière de tes fesses et simplement, comme dans l'exemple que j'ai donné l'autre jour, une personne veut s'en aller à l'étranger parce que les conditions de vie sont meilleures dans un autre pays. Tu veux t'en aller là-bas? Tu es endetté jusqu'aux oreilles. Peut-on te laisser partir sans rembourser tes dettes? Ne dois-tu pas les rembourser? Les dettes que tu as contractées, tu dois toutes les payer. Ce qui est dû doit être payé. C'est aussi un principe. Nous pouvons t'ouvrir une porte tout à fait pratique, te permettre d'écouter le Fa et aussi t'aider à cultiver et pratiquer, et dissoudre une partie de ton karma. Cependant, ce karma lui-même doit être encore partiellement remboursé par toi. Cela ne va pas si tu ne le payes pas en retour. Tu rembourses le karma et en même temps, tu peux souffrir et gagner ta propre élévation. Il s'agit juste de savoir si certains d'entre nous peuvent s'éveiller à cela. Des choses désagréables sous tout rapport arrivent à certaines personnes. Dans la société, celle-ci rencontre une difficulté aujourd'hui, une autre demain. Quelquefois, tu ressens qu'il y a beaucoup de tensions à la maison et qu'il y a des désaccords avec ton épouse ou avec ton chef au travail. Ou même dans la société, il y a une pression. Si tu peux la traiter comme une chose pour laquelle tu n'as pas besoin de t'en faire, une fois que tu l'auras passé, une fois que tu auras surmonté cette épreuve, quand tu jetteras un regard en arrière, tu verras qu'elle n'était rien. Comment peut-elle avoir un quelconque impact? Elle n'a aucun impact. Les aînés parmi nous, des personnes à la retraite ou des personnes qui sont âgées, mais ont encore un travail, jette un regard en arrière sur la première partie de ta vie. As-tu eu 3 bons jours consécutifs? Quel que soit ton niveau social parmi les gens ordinaires, tu n'as pas eu 3 bons jours consécutifs dans ta vie. Si ce n'était pas quelque chose de physique, c'était quelque chose de mental. Des soucis perpétuels et des inquiétudes incessantes. Tu n'as pas eu 3 bons jours. Les épreuves surgissent comme des vagues. À peine l'une est terminée que l'autre surgit. Si tu avais pris très au sérieux les conflits dans ta vie quotidienne, dans la société ordinaire ou dans ton travail, si tu avais considéré cela comme très important, tu n'aurais pas vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque tu jettes un regard en arrière là-dessus, ce qui semblait si insurmontable en ce temps-là n'est rien du tout maintenant vu d'ici. Tout cela n'est-il pas dépassé? Si lorsque la tribulation surgit, tu la regardes comme quelque chose d'immense, en fait tu as chuté bien bas. Tu la regardes en face et depuis le bas, elle paraît insurmontable. Mais dès que tu laisses tomber ton attachement, tu découvres que tu es grand et imposant et que la tribulation est minuscule. Tu la traverses d'un pas, il n'y a rien du tout. Le peuple chinois a un dicton. Fais un pas en arrière et tu découvriras que la mer est vaste et le ciel sans limite. Lorsque tu es en conflit avec quelqu'un et que tu creuses dans une corne de buffle, cela n'amène en définitive aucun bon résultat ni aucune bonne conséquence. Mais si tu fais un pas en arrière, si tu ne t'abaisses pas toi-même à être comme lui, tu découvres une vision tout à fait différente, n'est-ce pas? Alors c'est garanti qu'il en sera ainsi. Donc au cours de ton Xiulian, tu rencontreras ces problèmes. Mais tu dois obligatoirement te considérer toi-même comme un pratiquant et les traiter correctement. C'est la seule façon dont tu pourras en venir à bout. Si tu n'avais aucune tribulation, je dis que ce serait très dangereux. Des gens comme ça, peut-être que personne ne s'occupe de vous, n'est-ce pas? Cela désigne l'éveil au cours du Xiulian. En fait, l'éveil auquel nous faisons vraiment allusion, il existe un éveil fondamental. Cela signifie qu'une personne, au cours de la cultivation, du début jusqu'à la fin, cultive jusqu'au bout la voie qu'il a empruntée, va jusqu'à la fin de son chemin de cultivation. Tout à coup, il termine le parcours tout entier de la cultivation. À ce moment-là, cela explose. Soudainement, son gong est libéré et soudainement, il devient éveillé. C'est ce qu'on appelle l'éveil subi. En explosant, tout se libère. Après avoir été soudainement déverrouillé par l'explosion, il comprend. Il voit la réalité de l'univers à son niveau. Par l'explosion, tous ses pouvoirs divins ont jailli. Toutes les formes de transformation de son corps, tous les verrous ont sauté. Alors à ce stade, la personne manifeste de grands pouvoirs divins. Dis-moi, est-elle encore une personne ordinaire? Dans l'école taoïste, on l'appelle un homme véritable. Dans les temps anciens, les gens l'auraient appelé un dieu. Comme nous cultivons pour devenir Bouddha, nous disons qu'elle a atteint la plénitude parfaite. Un Bouddha est aussi quelqu'un qui se cultive et pratique, n'est-ce pas?
Bien sûr, ce que je viens de dire appartient à l'éveil subi. Il y a encore une autre sorte d'éveil appelée éveil graduel. Ce dont je parle est l'éveil essentiel. Qu'est-ce que l'éveil graduel? Au cours de la pratique d'une vie, ton œil céleste passe d'une vision floue à une vision claire. Quant à tes pouvoirs supranormaux, de petits, ils deviennent grands. Graduellement, ceux qui doivent émerger, si tu es capable de te contrôler toi-même, sont autorisés à apparaître en toi. Le niveau de ton œil céleste s'élève graduellement. Puis finalement, après avoir traversé petit à petit le processus entier de ton surlien, tu as atteins le point le plus haut. Alors tu es aussi capable de voir toutes choses et tes pouvoirs supranormaux sont pleinement ouverts. Tu es parvenu à ce point petit à petit. Il n'y a pas eu d'explosion instantanée. Tu y es parvenu par le chemin de l'éveil graduel. Au cours du processus entier de ta cultivation dans sa partie supérieure, dans sa partie à un niveau inférieur, cela ne marcherait pas. Tu ne pourrais pas le voir. Mais dans cette partie supérieure, tu pourras voir complètement comment tu as cultivé. Comment tu as fait ton chemin? Tu l'as effectué en cultivant en toute connaissance et consciemment. C'est ce que nous voulons dire par éveil graduel. C'est l'éveil fondamental. Tu sais, dans le bouddhisme, dans l'école Chan, on parle aussi d'éveil subi et d'éveil graduel. On dit que ces choses sont... Je dis que l'école Chan creuse dans une corne de buffle, que c'est une impasse. Ils prennent ces choses de manière absolue et pensent que l'éveil instantané consiste à t'éveiller à tout cela en un instant. Tandis que l'éveil graduel est... Bien sûr, peu importe la manière dont on en débat, en fait, il s'agit, à propos d'une théorie ou d'un problème, de comprendre lentement ou instantanément. Voilà la question. Tu dis « je l'ai comprise en un instant » ou « je l'ai comprise graduellement ». Je dis que les deux manières sont correctes. Il n'y a rien à débattre. On en a débattu pendant très longtemps dans l'histoire. Les deux sont correctes. Pourquoi les deux sont-elles correctes? Si tu es parvenu à comprendre une théorie graduellement, je dis que ce n'est pas mauvais. Tôt ou tard n'a pas d'importance dans l'éveil. Si tu t'y es éveillé immédiatement, c'est mieux. Cela montre que ta qualité d'éveil est haute, que ta qualité innée est bonne. C'est pourquoi tu as pu le faire. Quant à celui dont la qualité d'éveil n'est pas bonne, il doit s'éveiller lentement. Par conséquent, les deux sont corrects. Ce n'est rien d'autre que la compréhension par l'éveil d'une théorie. Et il y a eu des controverses. En fait, l'éveil dont nous parlons est l'éveil fondamental. L'éveil subi ou l'éveil graduel dont nous parlons est l'éveil fondamental. Alors que l'éveil instantané ou graduel dont eux parlent n'est que l'éveil concernant des théories. J'ai compris cette question instantanément. Celle-ci, je l'ai comprise graduellement. C'est de cela dont eux parlent. Nous venons juste de mettre l'accent sur cette question d'éveil. Au cours de ces derniers jours, en donnant ces conférences, j'ai aussi mentionné quelques autres termes ou expressions. Par exemple, une personne de grande prédisposition. Une telle personne de grande prédisposition est très difficile à trouver dans la société. Certains systèmes ont de très hautes exigences. Cela demande de nombreuses années, des décennies pour qu'une telle personne apparaisse dans la société humaine ordinaire. Pour ceux qui ont des exigences encore plus hautes, cela demande quelques centaines d'années pour qu'une personne de telle sorte apparaisse. Et pour des exigences encore plus hautes, on dit que c'est seulement une fois au cours d'une très longue période d'histoire que peut apparaître une personne capable d'hériter et de transmettre ce qui appartient à mon école. C'est ce que les gens veulent dire par une personne de grande prédisposition. Une telle personne est très difficile à trouver. Sa capacité à supporter et à endurer est au-delà de ce que les autres peuvent faire. Si d'autres s'y essayaient, ils deviendraient fous ou craqueraient mentalement. Voilà ce dont nous parlons. Une personne de grande prédisposition a aussi plusieurs qualifications. L'une, évidemment, est qu'elle est une personne avec un grand « deux ». Elle doit avoir beaucoup, beaucoup de « deux ». Et cela forme un grand champ autour d'elle. En plus, une telle personne doit être capable de supporter la souffrance dans la souffrance. Qu'est-ce que cela veut dire? La souffrance dans la souffrance. Il est facile d'en parler, c'est facile à entendre. C'est vite dit, mais extrêmement difficile à faire. Cette personne, si tu ne me crois pas, lorsque tu es dans la société humaine ordinaire, maintenant que tu écoutes ce fa, dans mon champ d'énergie, la disposition de ton cœur est bonne. Parmi les gens ordinaires, ton état d'esprit n'est pas nécessairement aussi bon. Alors si dans ces conditions, un conflit surgit, seras-tu capable de le supporter? Et si, en plein milieu de ce conflit que tu n'as pas encore résolu, il en surgit un autre, pourras-tu le supporter? S'il en arrive encore un autre, que vas-tu faire? Voilà celui qui peut supporter la souffrance dans la souffrance. Une telle personne est très difficile à trouver. C'est aussi très difficile à faire. Dans le passé, je donnais habituellement un exemple. Nous laissons de côté cet exemple. L'homme est dans la souffrance. C'est pourquoi, si tu dois souffrir plus, cela sera très difficile à supporter. Exactement comme la blague que j'ai racontée l'autre jour.
Je disais qu'il y avait cette personne. Transposons-le dans le contexte de la vie moderne. Dans l'entreprise de cette personne, les affaires ne marchent pas trop bien et on a des problèmes financiers. L'entreprise va se réorganiser, on va faire des réformes et peut-être des gens vont être mis à pied. Si tu perds ton gagne-pain permanent, ce n'est sûrement pas agréable. Mais évidemment, tu n'es pas le seul. Cet homme est licencié, il rentre à la maison avec le moral au plus bas. Le cœur affligé, il arrive à la maison et voit qu'un de ses parents est tombé sérieusement malade. Il faut au plus vite l'envoyer à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital, mais sans travail, où peut-il obtenir un chèque? Sans argent, on ne peut pas rester à l'hôpital. Alors il emprunte de l'argent. Bousculé et irrité, il s'assure que son parent y est finalement installé. Après cela, aussitôt rentré à la maison, il reçoit un appel du maître d'école disant « Ton enfant a frappé et blessé un élève de l'école. Peux-tu venir ?» Imagine combien de colère et d'énervement surgissent. Cette histoire est simplement un exemple, c'est une blague. Il n'y a pas de telle chose. Avec beaucoup d'efforts, il parvient à arranger tout cela. Il s'assied pour souffler et dit « Quelle journée ? Comment ai-je pu traverser cela ? Quel stress ! » Et à peine assis, le téléphone sonne et on lui annonce « Ta femme a une liaison. Ce n'est qu'une blague. Dis-moi, comment peut-on encore avoir envie de vivre ? Je ne veux plus vivre. Trouver une corde et me pendre et ça sera réglé une fois pour toutes. Cela signifie qu'il ne peut pas le supporter. En fait, l'homme est simplement dans la souffrance. Il endure encore plus de souffrance. Il souffre dans le Shulian. On dit que c'est facile pour une personne de cultiver. Qu'en quelques décennies, tu peux réussir dans la cultivation. Les êtres humains sont dans la souffrance. Les religions disent aussi que l'homme est dans la souffrance. Les gens ne le comprennent pas. Pourquoi l'homme est-il dans la souffrance? Chacun est venu de cette façon, sortant du sein d'une mère. Personne ne sent la souffrance. Je te le dis, dès que tu as ce corps physique, la soif et la faim te tourmentent. La chaleur et le froid te tourmentent. La fatigue te tourmente. Quoi qu'il en soit, il n'y a pour toi aucun confort. Et encore sans parler des inquiétudes engendrées par les attachements humains, par les sentiments, les désastres naturels et le karma des maladies. En plus, il y a la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Et tu dis que l'homme ne souffre pas? Il est en plein dans la souffrance. Mais puisque tout le monde passe par là, on ne réalise pas que c'est la souffrance. Une fois, j'ai lu un article d'un journal à propos d'une enquête sociale se rapportant au tremblement de terre de Tangshan. Beaucoup de gens sont revenus à la vie après le tremblement de terre. Après être morts, ils ont revécu. On a demandé à ces gens « Qu'as-tu senti dans l'état de la mort ?» Contrairement aux attentes, les gens ont dit exactement la même chose d'une personne à l'autre. Ils ont déclaré qu'au moment de la mort, il n'y avait plus aucun sentiment de peur, juste l'opposé. Il y avait un sentiment d'exaltation, comme si on était libéré. Immédiatement, leur corps s'était levé dans l'air. Ils n'ont senti ni légèreté ni lourdeur. Ils étaient très confortables. Ils n'avaient ni froid ni chaud. C'était vraiment magnifique. Certains aussi ont pu voir leur corps. Certains ont pu aller à certains endroits. Certains ont vu d'autres entités vivantes. Bien sûr, nous n'allons pas parler de cela. Cela n'a rien à voir avec nous. Nous parlons simplement de cette sensation. Dès que l'homme a ce corps, ça l'amène dans cet état. Alors, tu ne sais pas ce que cela veut dire d'être sans corps. Bien sûr, sans ce corps, tu ne serais pas perdu dans les illusions des gens ordinaires. Tu pourrais voir toute chose. De plus, en un instant, à l'instant de la mort, quand l'esprit originel sort, en cet instant, toutes les choses bonnes et mauvaises que tu as faites dans cette vie, quelles qu'elles soient, apparaissent à la vue clairement. Chaque événement apparaît devant tes yeux. Soudainement, on est libéré. On n'est plus restreint par le cerveau. Tout apparaît très nettement. Je viens de dire qu'on doit supporter la souffrance dans la souffrance. Alors on doit encore avoir le cœur du grand gène. Parlons de ce gène. Qu'est-ce que le cœur de grande patience? Bien sûr, nous t'expliquons que comme pratiquant dans ce cours, la première chose que tu dois arriver à faire est de ne pas rendre les coups lorsque tu es frappé, de ne pas répondre lorsque tu es insulté. De plus, le gène dont nous parlons est au-delà de la compréhension d'une personne ordinaire. Celle-ci pense, vous ne rendez pas les coups lorsque vous êtes frappé, vous ne répondez pas lorsque vous êtes insulté, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tous devenus des haku. Elle pensera comme cela. Une personne ordinaire est simplement une personne ordinaire. Les principes sont inversés au niveau supérieur. De l'autre côté, on pense que tu es malin, n'est-ce pas? Réfléchissez, même dans la société ordinaire, une personne cultivée ou bien élevée ne s'abaissera pas à se comporter comme quelqu'un d'ordinaire. Si tu m'insultes, je t'ignore, je garde une attitude noble. Les gens ne pourront pas dire que cette personne est stupide. Ils diront qu'elle a vraiment une attitude d'une grande noblesse, qu'elle est vraiment tolérante. Ils la loueront. En fait, je te dis, jeûne n'est pas la même chose que cette sorte de mentalité de Hakyu, faite de peur ou de lâcheté. Je te le dis, ce n'est pas cela. Ce n'est pas de la lâcheté du tout, juste l'opposé. C'est la manifestation d'un fort pouvoir de volonté. Si tu n'as pas un tel pouvoir de volonté, tu ne pourras jamais le supporter. Lorsqu'un homme du commun affronte une humiliation, il dégaine son épée pour combattre. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me frappes, je t'envoie mon poing en retour. Alors il est simplement un homme ordinaire. C'est le courage d'un homme quelconque. Comment de telles personnes peuvent-elles cultiver ? Vous savez, il y a la légende suivante dans l'histoire. Une légende historique. Han Xin, vous savez, le grand général sous l'empereur Liu Bang dans la dynastie des Han. On dit qu'il était un pilier de l'État pour Liu Bang. Historiquement, c'est une figure très forte et sa réputation est très grande. Comment Han Xin a-t-il pu accomplir de grandes choses ? Parce que depuis son enfance, il était une personne hors du commun. On raconte l'histoire suivante à propos de sa jeunesse quand il pratiquait les arts martiaux. Les pratiquants des arts martiaux avaient l'habitude de porter une épée. Un jour, Han Xin marchait dans la rue. Un homme a surgi en face de lui avec ses mains sur les hanches, lui bloquant le passage et lui a dit « Pourquoi portes-tu une épée ? Oserais-tu tuer un homme ? Si tu l'oses, coupe ma tête. » Et disant cela, il a tendu sa nuque. Han Xin a pensé « De quoi s'agit-il ? Pourquoi devrais-je te tuer ? En ces temps-là, si tu tuais un homme, cela n'aurait pas été sans conséquence. N'aurais-tu pas dû aussi aller au tribunal et payer pour cela de ta vie ? Ainsi, Han Xin ne l'a pas tué. Voyant que Han Xin n'osait pas le toucher, il a dit « Si tu n'oses pas me tuer, alors passe entre mes jambes. Autrement, je ne te laisserai pas passer. » Alors Han Xin est bel et bien passé entre ses jambes. À ton avis, un tel personnage, ce personnage a pu endurer une aussi grande humiliation. On dit que c'est précisément parce que Han Xin a pu endurer l'humiliation dans l'intérêt d'un but supérieur qu'il est vraiment extraordinaire. C'est seulement parce qu'il avait une patience aussi grande qu'il a pu atteindre la grandeur plus tard. Et il était simplement une personne ordinaire. Et nous vous demandons d'être des gens extraordinaires. Nous devons faire mieux que lui. Bien sûr, tu ne rencontreras pas cette situation où, lorsque tu marches dans la rue, quelqu'un voudra que tu passes entre ses jambes. Mais ne pas être perturbé par les sentiments surgissant dans les conflits de personnes et les intrigues entre les gens est très difficile. Je dis que cela n'en est pas plus facile. Ce n'est pas plus facile. Bien sûr, on doit encore être capable de renoncer. On doit encore être capable de garder son « deux ». Comme tout à l'heure, je parle simplement du principe de préserver le « deux », de ne pas perdre le « deux ». Bien sûr, la qualité d'éveil doit être bonne. Évidemment, si la qualité innée de quelqu'un est bonne, alors la qualité d'éveil de cette personne est bonne. On doit satisfaire à ses exigences pour être considéré comme une personne de grande prédisposition. Puisque le temps est limité, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons tout à fait terminé de parler de ce fa aujourd'hui. Pourrions-nous en parler plus ? Si je l'explique en détail, je peux continuer à enseigner. Si je m'assieds ici et que j'en parle pendant une année, j'aurai encore des choses à discuter. Mais cela ne serait d'aucun bénéfice pour notre Xiulian futur. Beaucoup de problèmes dépendent de la compréhension par l'éveil de chacun. Les problèmes concrets, je ne peux pas t'en parler. Si je parlais des problèmes concrets, que te resterait-il à comprendre par l'éveil ? Que te resterait-il à faire ? Toutes les occasions, tout l'environnement, toutes les conditions pour ton Xiulian et ta pratique disparaîtraient. Ainsi, lorsque tu rencontreras des problèmes concrets, tu devras agir conformément à ce fa. Comment le faire bien ? Fondamentalement, nous t'avons parlé de tout ce qu'il fallait dire. Tu peux aussi te référer aux enregistrements de mes autres séminaires. Dans les 10 leçons, je t'ai parlé de tant de choses. Quant à savoir si j'ai été responsable envers toi durant le séminaire, le public pourra juger par lui-même. Ainsi, je ne discuterai pas ces problèmes. Notre séminaire, pris dans son ensemble, s'est à mon avis déroulé très bien du début jusqu'à la fin. Et pour finir, nous l'avons amené à une conclusion pleine de succès. Chacun, plus de 3000 personnes ici, ont parcouru de grandes distances venant d'autres régions. Ceux qui ont fait le plus de chemin viennent de la province du Heilongjiang et de la province du Xinjiang. Venir jusqu'ici en parcourant 4 ou 5 000 km, c'est une longue route. Tous ont traversé beaucoup d'épreuves. Certaines personnes étaient même à court d'argent. Il y avait même ceux qui devaient se rabattre sur des soupes de nouilles instantanées ou grignoter des biscuits. Dans quel but? Tous, vous êtes venus ici pour apprendre ce fa, pour obtenir ce fa, n'est-ce pas? Alors, chacun de vous sait à quel point ce fa est précieux. Bien sûr, dans les 10 leçons, nous avons essayé de satisfaire tes demandes, de te rendre les choses les plus simples possibles. Nous avons aussi essayé de t'en dire plus, de te l'expliquer complètement pour que tu sois capable de le comprendre. Désormais, si tu cultives, tu as un fa vers lequel te tourner. Cela veut dire que durant ces 10 leçons, chacun de vous a été sous ma responsabilité, n'est-ce pas? Et que je t'amène à des niveaux supérieurs, ou que je purifie tes corps. Le but est de te permettre d'être capable de cultiver dès maintenant. Cela revient à dire que lorsque ces 10 cours sont terminés, dans le futur, cela dépendra de toi. Que tu puisses cultiver ou non, que tu puisses le faire, dépend entièrement de toi. À mon avis, puisque vous êtes assis ici, vous tous, vous avez une affinité prédestinée, n'est-ce pas? Je pense que lorsque vous rentrerez, rien ne s'opposera à ce que vous essayez de voir comment ça marche. Pour ceux qui peuvent persévérer, alors persévérez et continuez à cultiver. Plus vous vous donnerez, plus vous obtiendrez, cela est garanti. Nous avons eu beaucoup d'expériences à cet égard. Beaucoup d'élèves ont fait de nombreuses expériences personnelles dans leur Shulian, n'est-ce pas? Je pense que c'est assez pour nous fournir beaucoup d'expérience. Cela peut nous amener beaucoup d'expérience et nous donner des leçons diverses. Bien. Bref, assis ici aujourd'hui, nous ne pouvons pas simplement gaspiller ces 8 jours ou ces 10 jours ou plus de temps, n'est-ce pas? Dafa, c'est vraiment une chose très difficile à obtenir pour une personne. Une fois que tu l'as obtenu, si tu ne sais pas l'apprécier, à l'avenir, il sera trop tard pour le regretter. Les Chinois ont un dicton. Passé ce village, il n'y a plus d'auberge, n'est-ce pas? À travers les conférences, vous tous pouvez l'avoir senti. Il n'y a pas d'autre maître de Qigong qui fasse des conférences semblables aux miennes. Dans notre pays, amener vraiment les gens à un haut niveau, enseigner ce fa de niveau encore plus élevé, il n'y a que moi qui le fasse. Dans le monde entier, il n'y a personne d'autre. Partout dans le monde, plaisantons, partout dans le monde, il n'y a que moi qui le fasse. Bien sûr, quoi qu'il en soit, le but est de te permettre en cette période historique, dans ce genre d'environnement où le cœur humain est compliqué, de te permettre d'obtenir un fa juste, d'être capable de t'élever, d'être capable véritablement d'accomplir le Shaolian. Même si tu ne fais pas la cultivation, après avoir terminé ce séminaire, tu seras aussi une bonne personne, n'est-ce pas? Je crois qu'il en sera ainsi. Beaucoup de nos élèves me l'ont dit. « Maître, après avoir écouté quelques-uns de vos cours, ma perspective entière sur le monde a changé. » Cela se passe de cette façon. Actuellement, les gens dans cette vague géante, dans ce courant énorme, prennent le faux pour le juste, le mauvais pour le bon et la méchanceté pour la bienveillance. Cela s'est déjà formé en concept. Si chacun suit ce courant, pris par ses attachements et la poursuite de ses intérêts, et que tout à coup je parle de choses complètement différentes des notions de ces gens, pour de nombreux nouveaux élèves, arriver à l'accepter, ils pensent que c'est bien, mais ils ne sont peut-être pas capables de les comprendre ou de les expliquer très clairement. Désormais, tu dois encore continuellement étudier, pratiquer et écouter. Seulement alors, tu pourras graduellement comprendre et approfondir ta compréhension. Alors j'espère aussi qu'après avoir terminé d'écouter ces conférences, une fois rentré, tu dois lire et relire le livre et souvent écouter les enregistrements. Seulement alors, tu pourras t'élever sans cesse. Je ne veux pas en dire plus. Pour finir, je t'offre ces paroles. Si dès maintenant, au cours du Shaolian, tu sens que c'est très difficile à supporter, que tu sens même ne jamais être capable de le faire, tu dois te rappeler mes paroles. Quelles paroles? Les voici. C'est dur à faire, mais on peut le faire. C'est difficile à endurer, mais on peut l'endurer. Je souhaite que vous tous, dans le Shaolian de Dafa, atteigniez la plénitude parfaite et réussissiez le Gong.